Alexandre Dumas, crime célèbre, Jeanne de Naples, 1343-1382. Dans la nuit du 15 au 16 janvier de l'année 1343, les habitants de Naples, livrés à leur paisible sommeil, furent réveillés en sursaut par les cloches des 300 églises que possède cette bienheureuse capitale. Au milieu du trouble universel causé par un si brusque réveil, la première idée qui se jeta à l'esprit de tout le monde fut que le feu avait pris aux quatre coins de la ville, ou qu'une armée ennemie, débarquée mystérieusement à la faveur de la nuit, allait passer les citoyens au fil de l'épée. Mais les sons lugubres et intermittents de toutes ces cloches, qui, troublant le silence à intervalles rares et égaux, invitaient les fidèles à réciter les bières des agonisants, firent bientôt connaître qu'aucun malheur ne menaçait la ville et que le roi seul était en danger. En effet, depuis plusieurs jours, on avait pu remarquer que la plus grande inquiétude régnait dans l'intérieur du château neuf. Les officiers de la couronne étaient convoqués régulièrement, deux fois dans la journée, et les grands du royaume, qui avaient le droit de pénétrer dans les appartements du monarque, en sortait accablé d'une profonde tristesse. Cependant, quoique la mort du roi fût regardée comme un malheur inévitable, lorsqu'on acquit la certitude que sa dernière heure approchait, la ville entière fut affectée d'une vive douleur, que l'on comprendra facilement quand nous aurons ajouté que celui qui allait mourir, après avoir régné 33 ans, 8 mois et quelques jours, était Robert d'Anjou, le roi le plus juste, le plus sage et le plus glorieux qui eût jamais occupé le trône de Sicile. Aussi emportait-il dans sa tombe les regrets et les éloges de tous ses sujets. Les soldats parlaient avec enthousiasme des longues guerres qu'il avait soutenues contre Frédéric et Pierre d'Aragon, contre Henri VII et Louis de Bavière, et sentaient battre leur cœur aux glorieux souvenirs des campagnes de la Lombardie et de la Toscane. Les prêtres l'exaltaient avec reconnaissance pour avoir défendu constamment les papes contre les attaques des Gibelins et pour avoir fondé dans tout le royaume des couvents, des hôpitaux, des églises. Les lettrés le regardaient comme le roi le plus savant de la chrétienté, si bien que Pétrarque n'avait voulu recevoir que de ses mains la couronne de poète et avait répondu pendant 3 jours de suite aux questions que Robert avait daigné lui adresser sur toutes les branches du savoir humain. Les juristes consultent émerveillés de la sagesse des lois dont il avait enrichi le code napolitain, l'avaient surnommé le Salomon du Moyen-Âge. Les nobles s'applaudissaient de la manière dont il avait respecté leurs privilèges, et le peuple célébrait sa clémence, sa piété, sa douceur. Enfin, prêtres et soldats, savants et poètes, nobles et plébéiens, songeaient avec effroi que le gouvernement allait tomber dans les mains d'un étranger et d'une jeune fille, et se souvenaient des paroles de Robert qui, suivant le cercueil de Charles, son fils unique, au moment où il franchissait le seuil de l'église, se tournant vers les barons du royaume, s'était écrié dans les sanglots. « Oh, aujourd'hui la couronne est tombée de ma tête, malheur à moi, malheur à vous !» Et maintenant que les cloches sonnaient l'agonie du bon roi, tous les esprits étaient préoccupés de ces mots prophétiques. Les femmes priaient Dieu avec ferveur, et les hommes se dirigeaient de tous les points de la ville vers la demeure royale, pour avoir des nouvelles plus authentiques et plus promptes. Mais après quelques moments d'attente, qu'ils mirent à profit pour échanger leurs tristes réflexions, force leur fut de s'en retourner comme ils étaient venus, car rien de ce qui se passait au sein de la famille ne transpirait au dehors. Le château était plongé dans l'obscurité la plus complète, le pont était levé comme à l'ordinaire, et les gardes veillaient à leur poste. Cependant, si nos lecteurs sont curieux d'assister à l'agonie du neveu de Saint-Louis et du petit-fils de Charles d'Anjou, nous pouvons les introduire dans la chambre occupée par le mourant. Une lampe d'albâtre suspendue au plafond éclaire cette pièce vaste et sombre dont les murs sont tendus de velours noir parsemés de fleurs de lys d'or. Près du mur, qui fait face aux deux portes par lesquelles on entre dans la chambre et qui dans ce moment sont fermées, s'élève sous un dais de brocart un lit d'ébène supporté par quatre colonnes torses et sculptées de figures symboliques. Le roi, après avoir lutté contre une crise violente, est tombé évanoui dans les bras de son confesseur et de son médecin, qui, s'emparant chacun d'une des mains du mourant, interroge son pouls avec inquiétude et échange des regards d'intelligence. Au pied du lit se tient debout une femme d'une cinquantaine d'années, les mains jointes, le regard levé au ciel, dans l'attitude d'une douleur résignée. Cette femme est la reine. Ses yeux n'ont pas de larmes et ses joues amaigries offrent ces tons de cire jaune qu'on peut remarquer dans les corps des saintes conservés par miracle. Son aspect montre ce contraste de calme et de souffrance qui révèle une âme éprouvée par le malheur et domptée par la religion. Au bout d'une heure, pendant laquelle aucun mouvement n'avait troublé le profond silence qui régnait autour de ce lit mortuaire, le roi tressaillit faiblement, ouvrit les yeux et fit un léger effort pour soulever la tête. Puis, remerciant par un sourire le docteur et le prêtre qui s'empressaient d'arranger ses oreillers, il pria la reine de s'approcher et lui dit d'une voix émue qu'il désirait l'entretenir quelques moments sans témoin. Le médecin, le professeur se retirèrent en s'inclinant profondément. Et le roi les suivit du regard jusqu'au moment où une des portes se referma sur eux. Il passa ensuite la main sur son front comme pour en arracher une pensée qui l'obsédait, et réunissant toutes ses forces pour cet instant suprême, il prononça ces paroles. « Ce que j'ai à vous dire, madame, ne regarde aucun des deux graves personnages qui étaient ici tout à l'heure, car leur tâche est accomplie. L'un d'eux a fait pour mon corps tout ce que la science humaine a su lui suggérer, sans obtenir d'autre résultat que de prolonger encore un peu mon agonie. Et l'autre vient d'absoudre mon âme de tous mes péchés en me promettant la rémission divine, sans pouvoir éloigner les apparitions sinistres qui se dressent devant moi à cette heure terrible. Vous m'avez vu deux fois de suite me débattre sous une étreinte surhumaine. Mon front s'est baigné de sueur, mes membres se sont raidis, mes cris ont été étouffés par une main de fer. Est-ce le mauvais esprit à qui Dieu a permis de me tenter? Est-ce le remords qui prend la forme d'un fantôme? Toujours est-il que les deux combats que je viens de soutenir ont tellement affaibli mes forces que je ne pourrais résister à une troisième attaque. Écoutez-moi donc, ma Sancia, car j'ai des recommandations à vous faire, desquelles dépendra peut-être le repos de mon âme. Mon seigneur et mon maître, dit la reine avec l'accent de la plus douce soumission, me voici prête à écouter vos ordres. Et si Dieu, dans les profonds desseins de sa providence, a décidé de vous appeler dans sa gloire et de nous plonger, nous, dans la douleur, vos dernières volontés seront exécutées sur la terre avec la plus scrupuleuse exactitude. Mais permettez-moi, ajouta-t-elle avec toute la sollicitude d'une conscience timorée, permettez-moi de répandre quelques gouttes d'eau bénite pour chasser le maudit de cette chambre et de réciter un passage de l'office que vous avez composé en l'honneur de votre saint frère, pour implorer sa protection dans un moment où elle nous est indispensable. » Et ouvrant un livre richement relié, elle lut avec la plus fervente dévotion quelques versets de l'office écrits par Robert dans un latin très élégant pour son frère Louis, évêque de Toulouse, office que l'Église a chanté jusqu'au Concile de Trente. Bercé par l'harmonie de ses prières composées par lui-même, le roi oublia presque l'objet de l'entretien qu'il avait demandé avec tant d'empressement et de solennité, et se laissant aller à une vague mélancolie, il murmura sourdement « Eh oui, oui, vous avez raison. Priez pour moi, madame, car vous aussi, vous êtes une sainte. Et moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. »« Oh, ne dites pas cela, monseigneur, » interrompit Dona Sanchia. « Vous êtes le roi le plus grand, le plus sage et le plus juste qui ait jamais monté sur le trône de Naples. »« Mais ce trône est usurpé, » reprit Robert d'une voix sombre. « Vous le savez, le royaume appartenait à Charles Martel, mon frère aîné. Et comme Charles occupait le trône de Hongrie, dont il avait hérité par sa mère, le royaume de Naples revenait de droit à son fils aîné, Carobert, et non pas à moi, qui suis le troisième de la famille. Eh bien, j'ai souffert qu'on me couronna à la place de mon neveu, qui était le seul roi légitime. J'ai substitué la branche cadette à la branche aînée. J'ai étouffé pendant 33 ans les remords de ma conscience. Oh, oui, il est vrai que j'ai gagné des batailles, que j'ai fait des lois, que j'ai fondé des églises, mais un seul mot dément tous les titres pompeux dont l'admiration des peuples entoure mon nom. Et ce mot retentit plus haut dans mon âme que toutes les flatteries des courtisans, que tous les chants des poètes, que toutes les ovations de la foule. Je suis un usurpateur. Non, ne soyez pas injuste envers vous-même, monseigneur, et songez que si vous n'avez pas abdiqué en faveur de l'héritier légitime, c'est que vous avez voulu épargner au peuple de plus grands malheurs. Au surplus, continua la reine, avec la profonde conviction que donne un argument sans réplique, vous avez gardé le royaume avec l'assentiment et l'autorisation de notre Saint-Père, le souverain pontife, qui en dispose comme d'un fief appartenant à l'Église. Bon, je me suis longtemps bercé de ces raisons, reprit le mourant, et l'autorité du pape a imposé silence à tous mes scrupules, mais quelque sécurité qu'on affecte pendant la vie, il vient une heure solennelle et terrible où toutes les illusions disparaissent. Et cette heure est venue pour moi, car je vais paraître devant Dieu, qui est le seul juge infaillible. Mais si sa justice est infaillible, sa miséricorde n'est-elle pas infinie? Poursuivit la reine avec l'élan d'une sainte inspiration. Quand même la crainte qui vient troubler votre âme serait fondée, quelle faute n'effacerait pas un si noble repentir? Du reste, n'avez-vous pas réparé le tort que vous avez pu faire à votre neveu Carobert en appelant dans le royaume André, son fils cadet, et en le mariant à Jeanne, la fille aînée de votre pauvre Charles? Ne seront-ils pas les héritiers de votre couronne? « Hélas !» s'écria Robert avec un profond soupir. « Dieu me punit peut-être d'avoir songé trop tard à ces justes réparations. Oh, ma noble et bonne Sanchia, vous venez de toucher une corde qui vibre douloureusement dans mon âme, et vous allez vous-même au-devant de la triste confidence que je voulais vous faire. J'ai un pressentiment sinistre, et les pressentiments que nous inspire la mort sont des prophéties. J'ai un pressentiment, dis-je, que les deux fils de mon neveu Louis, qui est roi de Hongrie depuis la mort de son père, et André, que j'ai voulu faire roi de Naples, seront le fléau de ma famille. Depuis le jour où ce dernier a mis le pied dans notre château, une fatalité étrange s'acharne à contrarier tous mes projets. J'espérais qu'en faisant élever ensemble Jeanne et André, une tendre intimité s'établirait entre ces deux enfants, et que la beauté de notre ciel, l'aménité de nos mœurs, le tableau séduisant de notre cour, finiraient par adoucir ce qu'il y avait de trop rude dans le caractère du jeune Hongrois. Eh bien, malgré mes efforts, tout a contribué à jeter entre les deux époux de l'aversion et de la froideur. Jeanne a 15 ans à peine et déjà bien au-dessus de son âge, doué d'un esprit brillant et mobile, d'un caractère noble et élevé, d'une imagination vive et ardente, tantôt libre et enjoué, comme un enfant, tantôt digne et fier, comme une reine, confiante et naïve, comme une jeune fille, passionnée et sensible, comme une femme, elle offre le plus frappant contraste avec André, qui, après être resté 10 ans dans notre cour, est plus sauvage, plus morne et plus intraitable que jamais. C'est très froid et régulier, sa physionomie impassible, sa répugnance pour tous les plaisirs que sa femme paraît aimer de préférence, ont élevé entre Jeanne et lui une barrière d'indifférence et d'antipathie. Au plus doux épanchement, il répond par un mot sèchement prononcé, par un sourire dédaigneux, par un froncement de sourcils. Il ne paraît jamais si heureux que lorsque, sous prétexte de chasser, il peut s'éloigner de la cour. Voilà, madame, quels sont les jeunes mariés sur le front desquels va passer ma couronne, et qui dans quelques instants vont se trouver exposés à toutes les passions qui grondent sourdement sous un calme trompeur, et qui n'attendent pour éclater que le moment où je rendrai le dernier soupir. « mon Dieu !» répétait la reine accablée en laissant tomber ses bras comme font les statues qui pleurent sur les tombeaux. « Écoutez-moi donc, Sancha. Je sais que votre cœur a toujours été détaché des vanités de la terre et que vous attendez l'heure où Dieu m'appellera à lui pour vous retirer dans le couvent de Sainte-Marie de la Croix que vous avez fondé vous-même dans l'espoir d'y terminer vos jours. » Ce n'est pas au moment où je vais descendre dans la tombe, convaincu du néant des grandeurs humaines, que j'essayerai de vous détourner de votre sainte vocation. Accordez-moi seulement, avant de passer aux noces du Seigneur, une année de veuvage, pendant laquelle vous porterez mon deuil et veillerez sur Jeanne, sur son mari, pour écarter de leur tête tous les dangers qui les menacent. Déjà, la grande Sénéchale et son fils ont pris trop d'ascendance sur notre petite fille. Prenez-y garde, madame, et au milieu de tous les intérêts, de toutes les intrigues, de toutes les séductions dont la jeune reine va être entourée, défiez-vous surtout de la tendresse de Bertrand d'Artois, de la beauté de Louis de Tarente et de l'ambition de Charles de Duras. Le roi s'arrêta, épuisé, par l'effort qu'il venait de faire en parlant. Puis, tournant vers sa femme un regard suppliant, et lui tendant sa main décharnée, il ajouta d'une voix presque éteinte, « Encore une fois, je vous en conjure, ne quittez pas la cour avant un an. Me le promettez-vous, madame ?»« Promets, monseigneur. » »« Et maintenant, continua Robert, dont la physionomie se ranima à ces paroles. Rappelez mon confesseur et mon médecin, et rassemblez la famille, car leur approche, et bientôt je n'aurai plus la force de prononcer mes dernières paroles. » Au bout de quelques instants, le prêtre et le docteur entrèrent dans la chambre, le visage inondé de larmes. Le roi les remercia avec effusion des soins qu'il lui avait prodigués dans sa dernière maladie, et les pria de l'aider à se vêtir des habits grossiers des moines franciscains, afin que Dieu, disait-il, le voyant mourir dans la pauvreté, dans l'humilité et dans la pénitence, daigna lui accorder plus facilement son pardon. Le confesseur et le médecin chaussèrent ses pieds nus des sandales des frères mendiants, l'habillèrent du froc de saint François et nouèrent le cordon autour de sa ceinture. Ainsi étendu sur son lit, avec son front couronné de rares cheveux, sa longue barbe blanche et ses mains croisées sur la poitrine, le roi de Naples ressemblait à un de ces vieux anachorètes dont la vie s'est usée dans les macérations de la chair et dont l'âme, absorbée par des contemplations célestes, passe insensiblement de sa dernière extase à la béatitude éternelle. Il resta ainsi quelque temps, les yeux fermés, adressant à Dieu une muette prière, puis, ayant fait éclairer la vaste pièce où il se trouvait, comme dans les grandes solennités, il fit un signe aux deux personnages, dont l'un se plaça au chevet et l'autre au pied du mourant. À l'instant même, les portes s'ouvrirent à deux battants et toute la famille royale, précédée par la reine et suivie par les principaux barons du royaume, vint se ranger en silence autour du lit du monarque pour écouter ses dernières volontés. Les yeux du roi se portèrent sur Jeanne, qui vint se placer la première à sa droite avec une expression indéfinissable de tendresse et de douleur. Elle était d'une beauté si rare et si prodigieuse que son aïeul, fasciné par cette éblouissante apparition, la prit pour un ange que Dieu lui envoyait pour consoler son agonie. Les lignes brillantes de son beau profil, ses grands yeux noirs et humides, son front pur et découvert, ses cheveux vernissés comme l'aile du corbeau, sa bouche délicate, tout l'ensemble de cette admirable figure, enfin, laissait dans le cœur de ceux qui la regardaient une impression profonde de mélancolie et de douceur, et s'aggravait dans l'esprit un trait ineffaçable. Grande et svelte, sans avoir l'excessive ténuité des jeunes filles, elle conservait ses mouvements pleins de souplesse et de nonchalance qui donnent à la taille l'ondulation d'une tige de fleurs balancée par la brise. Mais à travers toutes ces grâces souriantes et naïves, on pouvait déjà remarquer dans l'héritière de Robert une volonté ferme et décidée à braver tous les obstacles. Et le cercle de bistre dont les beaux yeux de la jeune femme étaient cernés prouvait que son âme était déjà ravagée par de précoces passions. Près de Jeanne se tenait Marie, sa jeune sœur, âgée de 12 à 13 ans, fille, elle aussi, de Charles, duc de Calabre, qui ne l'avait pas vue naître, et de Marie de Valois, qui avait eu la douleur de la quitter au berceau. Admirablement jolie et timide, elle paraissait gênée par tout ce rassemblement de grands personnages et se rapprochait doucement de la grande sénéchale Philippa, surnommée la Catanaise, gouvernante des princesses et respectée par elle comme une mère. Derrière les princesses et à côté de la grande sénéchale était placé son fils Robert de Cabannes, beau jeune homme, fier et cambré, caressant de sa main gauche sa moustache effilée et jetant à la dérobée sur Jeanne un regard d'une témérité effrayante. Le groupe était fermé par Donna Cancia, jeune camériste des princesses, et par le comte de Terizzi, qui échangeait avec cette dernière tantôt une œillade furtive, tantôt un sourire comprimé. Le second groupe se composait d'André, le mari de Jeanne, et de frère Robert, précepteur du jeune prince, qui l'avait suivi de Bude et ne le quittait pas un instant. André pouvait avoir alors environ 18 ans. Au premier aspect, on était frappé par l'extrême régularité de ses traits et par sa belle et noble figure, encadrée de magnifiques cheveux blonds. Mais au milieu de toutes ces physionomies italiennes d'une beauté vive et saisissante, son visage manquait d'expression. Ses yeux paraissaient éteints et quelque chose de dur et de glacial révélait son caractère sauvage et son origine étrangère. Quant à son précepteur, Pétrarque a eu soin de nous laisser son portrait. Visage rouge, barbe et cheveux roux, taille courte et déjetée, orgueilleux dans sa misère, riche dans sa grâce, et comme un autre Diogène, couvrant à peine de son froc ses membres hideux et difformes. Dans le troisième groupe était la veuve de Philippe, prince de Tarente, frère du roi, honoré à la cour de Naples du titre d'impératrice de Constantinople, titre dont elle avait hérité en sa qualité de petite fille de Baudouin II. Un homme habitué à sonder les sombres profondeurs de l'âme humaine aurait compris d'un seul regard tout ce que cette femme cachait de haine implacable, de jalousie venimeuse et d'ambition dévorante sous sa livide pâleur. Elle était entourée de ses trois fils, Robert, Philippe et Louis, le plus jeune de tous les trois. Si le roi avait choisi parmi ses neveux le plus beau, le plus généreux, le plus brave, nul doute que Louis de Tarente n'eût obtenu la couronne. À 23 ans, il avait dépassé dans l'exercice des armes les cavaliers du plus grand renom. Franc, loyal, hardi, il n'avait pas plutôt conçu un projet qu'il en assurait l'exécution. Son front brillait de cet éclat limpide qui est pour les natures privilégiées comme l'auréole du succès. Ses beaux yeux, d'un noir doux et velouté, subjuguaient les âmes pour qui la résistance devenait impossible, et son sourire caressant consolait les vaincus de leur défaite. Enfant prédestiné, il n'avait qu'à vouloir. Une puissance inconnue, une fée bienfaisante qui avait présidé à sa naissance, se chargeait d'aplanir tous les obstacles et de satisfaire à tous ses désirs. Presque à côté de lui, dans le quatrième groupe, fronçait le sourcil son cousin Charles de Duras. Sa mère Agnès, veuve de Jean, duc de Duras et d'Albanie, autre frère du roi, le contemplait avec effroi et serrait sur son cœur par un mouvement instinctif ses deux plus jeunes fils, Ludovic, comte de Gravina, et Robert, prince de Moret. Charles, le visage pâle, les cheveux courts, la barbe épaisse, portait ses regards soupçonneux tantôt sur son oncle mourant, tantôt sur Jeanne et sur la petite Marie, tantôt sur ses cousins, et paraissait tellement agité par ses pensées tumultueuses qu'il ne pouvait pas rester en place. Son attitude inquiète et fiévreuse contrastait singulièrement avec le visage calme et rêveur de Bertrand d'Artois, qui, cédant le pas à son père Charles, se rapprochait ainsi de la reine placée au pied du lit et se trouvait de cette façon en face de Jeanne. Mais le jeune homme était tellement absorbé par la beauté de la princesse qu'il ne semblait ne voir qu'elle dans la chambre. Aussitôt que Jeanne et André, les princes de Tarente et de Duras, les comtes d'Artois et la reine Sanchia eurent pris leur place autour du lit mortuaire, en formant un demi-cercle dans l'ordre que venons de décrire, le vice-chancelier du royaume traversa les rangs des barons qui se pressaient, suivant leur grade à la suite des princes du sang, et après s'être incliné devant le roi, il déploya un parchemin scellé du sceau royal et lut d'une voix solennelle au milieu du plus profond silence. Robert, par la grâce de Dieu, roi de Sicile et de Jérusalem, comte de Provence, de Fort-Calquier et du Piémont, vicaire de la Sainte Église romaine, nomme et déclare son héritière universelle dans le royaume de Sicile, en-delà et en-deçà du phare, ainsi que dans les comtés de Provence, de Fort-Calquier et du Piémont, et dans toutes les autres terres, Jeanne, duchesse de Calabre, fille aînée de l'excellent seigneur Charles, duc de Calabre, d'illustre mémoire. De même, il nomme et déclare la respectable demoiselle Marie, fille puînée de feu monseigneur, le duc de Calabre, son héritière dans le comté d'Alba et dans la justice de la vallée de Gratie et de la terre de Giordano, avec tous les châteaux et dépendances, et ordonne que la demoiselle énoncée les reçoive en fief direct de la surdite duchesse et de ses héritiers. À cette condition, cependant, que si madame la duchesse donne et alloue à son illustre sœur ou à ses ayants cause la somme de 10 000 onces d'or à titre de dédommagement, le comté et justice susdite resteront à madame la duchesse et à ses héritiers. De même, il veut et ordonne, pour des raisons secrètes qui le font agir ainsi, que la susdite demoiselle Marie, contracte mariage avec le très illustre prince Monseigneur Louis, actuel roi de Hongrie. Et si quelque empêchement s'oppose à ces noces, à cause du mariage qu'on dit conclu et signé entre le roi de Hongrie et le roi de Bohême et sa fille, le roi, notre Seigneur, ordonne que l'illustre demoiselle Marie contracte mariage avec le fils aîné du très haut Seigneur Don Juan, duc de Normandie, fils aîné de l'actuel roi de France. À ce passage, Charles de Duras jeta sur Marie un regard singulièrement significatif qui échappa à tous les assistants, dont l'attention était absorbée par la lecture du testament de Robert. Quant à la jeune fille, depuis qu'elle avait entendu prononcer son nom, ses joues étaient devenues pourpres et confuses et interdites. Elle n'avait plus osé lever les yeux sur personne. Le vice-chancelier continua. De même, il a voulu et ordonné que toujours et à perpétuité, les comtés de Fort-Calquier et de Provence soient unis à son royaume sous une seule domination, et comme formant un seul domaine inséparable, quand même il y aurait plusieurs fils ou filles, ou pour quelque raison que ce soit, cette union étant du plus haut intérêt pour la sûreté et la prospérité mutuelle du royaume et des comtés susdits. De même, il a décidé et ordonné qu'au cas où la duchesse Jeanne viendrait à mourir, ce dont Dieu nous garde, sans laisser d'enfant légitime de son propre corps, l'illustrissime seigneur André, duc de Calabre, son mari, aura la principauté de Salerne avec le titre, les fruits, les rentes et tous les droits, plus la rente de 2 000 onces d'or pour son entretien. De même, il a décidé et ordonné que la reine, principalement, aussi bien que le vénérable père, Don Philippe de Cabazol, évêque de Cavaillon, vice-chancelier du royaume de Sicile, et les magnifiques seigneurs Philippe de Sanguinetto, sénéchal de Provence, Godefroy de Marsan, comte de Squillas, amiral du royaume, et Charles d'Artois, comte d'Aire, seront et devront être gouverneurs, régents et administrateurs du susdit seigneur André et des susdites dames Jeanne et Marie, jusqu'à ce que Monseigneur le Duc, Madame la Duchesse et la très illustre demoiselle Marie auront atteint leur 25e année, etc., etc. Lorsque le vice-chancelier eut achevé sa lecture, le roi se leva sur son séant, et après avoir parcouru du regard sa belle et nombreuse famille, « Mes enfants, dit-il, vous venez d'entendre mes dernières volontés. Je vous ai fait venir tous à mon lit de mort afin que vous puissiez voir comment passe la gloire de ce monde, ce que le peuple a nommé les grands de la terre. Ont pendant la vie de plus grands devoirs à remplir, après la mort de plus grands comptes à rendre. Voilà en quoi consiste leur grandeur. J'ai régné 33 ans, et Dieu, devant lequel je vais paraître tout à l'heure, Dieu qui a souvent recueilli mes soupirs pendant ma longue et pénible carrière, connaît seul les pensées qui me déchirent l'âme au moment de mon agonie. Bientôt je serai couché dans ma tombe et je ne revivrai plus pour ce monde que dans la mémoire de ceux qui prieront pour moi. Mais avant de vous quitter pour toujours, vous deux fois mes filles que j'ai aimées d'un double amour, vous mes neveux pour lesquels j'ai eu tous les soins et toute la tendresse d'un père, promettez-moi d'être toujours unis d'âme et d'intention comme vous l'êtes dans mon cœur. J'ai survécu à vos pères, moi le plus vieux de tous, et Dieu sans doute l'a voulu ainsi pour resserrer les liens de vos affections, pour vous habituer à vivre dans une seule famille et à ne respecter qu'un seul chef. Je vous ai tous aimés également, comme le doit un père, sans exception, sans préférence. J'ai disposé du trône suivant le droit de la nature et les inspirations de ma conscience. Voici les héritiers de la couronne de Naples. Vous, Jeanne, et vous, André, n'oubliez jamais le respect et l'amour qu'on se doit entre époux, et que vous êtes jurés mutuellement au pied de l'autel. Et vous tous, mes neveux, mes barons, mes officiers, prêtez hommage à vos souverains légitimes. André de Hongrie, Louis de Tarente, Charles de Duras, souvenez-vous que vous êtes frères. Malheur à celui qui imitera la perfidie de Caïn, que le sang retombe sur sa tête et qu'il soit maudit par le ciel comme il est maudit par la bouche d'un bourreau, et que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit descende sur les hommes de bonne volonté au moment où le Seigneur miséricordieux va rappeler mon âme. » Le roi resta immobile, les bras levés, les yeux fixés vers le ciel, les joues animées d'un éclat extraordinaire, tandis que les princes, les barons et les officiers de la cour prêtaient à Jeanne et à son mari le serment de fidélité et d'hommage. Lorsque le tour des princes de Duras arriva, Charles passa dédaigneusement devant André et, pliant un genou devant la princesse, il dit d'une voix forte et en lui baisant la main, « C'est à vous, ma reine, que je rends hommage. » Tous les regards se tournèrent avec effroi vers le mourant, mais le bon roi n'avait rien entendu. Le voyant retomber roide et sans mouvement, Dona Sancha éclata en sanglots et s'écria d'une voix remplie de larmes, « Le roi est mort, prions pour son âme. » Mais à l'instant même, tous les princes s'élancèrent hors de la chambre et toutes les passions comprimées jusqu'alors par la présence du roi débordèrent à la fois comme un torrent qui rompt ses digues. « Vive Jeanne !» crièrent les premiers, Robert de Cabannes, Louis de Tarente et Bertrand d'Artois, tandis que le précepteur du prince, furieux, fendant la foule et apostrophant énergiquement les membres du conseil de régence, répétait sur tous les tons. « Messieurs, Seigneur, vous oubliez déjà les volontés du roi, il faut crier aussi « Vive André !» Puis, joignant l'exemple à la théorie et faisant lui seul autant de vacarme que tous les barons en réunis, il s'écria d'une voix tonnante « Vive le roi de Naples !» Mais ce cri resta sans écho, et Charles de Duras, toisant le dominicain d'un regard terrible, s'avança vers la reine et, la prenant par la main, il fit glisser sur les tringles le rideau du balcon d'où l'on découvrait la place et la ville. Une foule immense, inondée par des flots de lumière, encombrait toute l'étendue que les regards pouvaient embrasser, et des milliers de têtes se levèrent vers le balcon du château neuf pour entendre ce qu'on venait leur annoncer. Alors Charles, se tirant respectueusement d'un côté et montrant de la main sa belle cousine, « Peuple napolitain, dit-il, le roi est mort, vive la reine !»« Vive Jeanne, la reine de Naples !» répondit le peuple avec un seul cri immense qui retentit dans tous les quartiers de la ville. Les événements qui s'étaient succédés dans cette nuit avec la rapidité d'un rêve avait produit sur l'esprit de Jeanne une impression si profonde que, brisée par mille émotions diverses, elle se retira dans ses appartements et s'enferma dans sa chambre et elle donna un libre essor à sa douleur. Tandis que toutes les ambitions s'agitaient autour du cercueil napolitain, la jeune reine, refusant toutes les consolations qui lui étaient offertes, pleurait amèrement la mort de son aïeul, qu'il avait aimé jusqu'à la faiblesse. Quant au roi, il fut enterré solennellement dans l'église de Santa Chiara, qu'il avait fondée et dédiée au Saint-Sacrement, après l'avoir enrichi des magnifiques fresques de Giotto et de plusieurs reliques précieuses, parmi lesquelles on montre encore aujourd'hui, derrière la tribune du maître-autel, deux colonnes de marbre blanc enlevées au temple de Salomon. C'est là qu'il est encore aujourd'hui, représenté sur son tombeau en habit de roi et en robe de religieux, à droite du monument de son fils Charles, duc de Calabre. Immédiatement après les obsèques, le précepteur d'André rassembla à la hâte les principaux seigneurs hongrois et il fut décidé, dans ce conseil, tenu en la présence et avec l'assentiment du prince, que des lettres seraient expédiées à sa mère Élisabeth de Pologne et à son frère Louis de Hongrie pour leur donner connaissance du testament de Robert et qu'en même temps on se plaindrait à la cour d'Avignon de la conduite des princes et du peuple napolitain qui avait proclamé Jeanne seule reine de Naples au mépris des droits de son mari et qu'on solliciterait pour ce dernier la bulle du couronnement. Frère Robert, qui a une profonde connaissance des intrigues de la cour, ajoutait l'expérience du savant et la ruse du moine, fit comprendre à son élève qu'il fallait profiter de l'abattement dans lequel la mort du roi paraissait avoir plongé Jeanne, et ne pas laisser à ses favoris le temps de l'entourer de leurs séductions et de leurs conseils. Mais plus la douleur de Jeanne avait été vive et bruyante, plus elle se consola promptement. Les sanglots qui avaient failli briser sa poitrine se calmèrent tout à coup. De nouvelles pensées, moins lugubres et plus douces, se succédèrent dans l'esprit de la reine. La trace de ses larmes s'effaça et un léger sourire vint briller dans ses yeux humides comme un rayon de soleil après une pluie d'orage. Ce changement épié avec sollicitude et attendu avec impatience fut bientôt remarquée par la jeune camérière de Jeanne. Elle se glissa dans la chambre de la reine et tombant à genoux, avec le ton le plus flatteur et le plus tendre paroles, elle adressa à sa belle maîtresse les premières félicitations. Jeanne ouvrit ses bras et la tint longtemps serrée sur son cœur. Car Donna Cancia était bien plus que sa camériste, elle était la compagne de son enfance, la dépositaire de tous ses secrets, la confidente de ses plus intimes pensées. Au reste, rien qu'à jeter un regard sur cette jeune fille, on comprenait la séduction qu'elle devait exercer sur l'esprit de la jeune reine. C'était une de ces figures riantes et ouvertes qui inspirent la confiance et captivent les âmes du premier abord. Ses cheveux d'un blond chaud et doré, ses yeux d'un bleu pur et limpide, sa bouche malicieusement relevée par les coins, son menton d'une extrême finesse, donnaient à sa physionomie un charme irrésistible. Folle, enjouée, légère, ne respirant que le plaisir, n'écoutant que l'amour, admirablement spirituel, délicieusement perfide, à 16 ans, oh, elle était jolie comme un ange et corrompu comme un démon. Toute la cour l'adorait et Jeanne avait plus d'amitié pour elle que pour sa propre sœur. « Eh bien, ma chère Gancia, murmura la reine avec un soupir, « oh, tu me vois bien triste et bien infortunée. »« Et moi, ma belle souveraine, répondit la confidente en fixant sur Jeanne un regard d'admiration, « vous me voyez bien heureuse, au contraire, de pouvoir déposer à vos pieds, avant les autres, le témoignage de la joie qu'éprouve en ce moment le peuple napolitain. Les autres vous enverront peut-être cette couronne qui brille sur votre front, ce trône qui est un des plus beaux trônes du monde, ces acclamations d'une ville entière qui ressemble bien plus à un culte qu'à un hommage. Mais moi, madame, je vous envie vos beaux cheveux noirs, votre regard éblouissant, votre grâce surhumaine qui vous font adorer de tous les hommes. Oh, tu le sais pourtant, ma Cancia, je suis bien à plaindre comme reine et comme femme. À 15 ans, une couronne est lourde à porter, mais je n'ai même pas la liberté dont jouit le dernier de mes sujets, la liberté des affections, car avant l'âge de raison, on me sacrifiait à un homme que je ne pourrais jamais aimer. Mais cependant, madame, reprit la camérière d'une voix plus insinuante, Il a dans cette cour un jeune chevalier qui, par son respect, son dévouement et son amour, aurait dû vous faire oublier les torts de cet étranger qui n'est digne d'être ni notre roi ni notre mari. » La reine poussa un profond soupir. « Mais depuis quand, reprit-elle, as-tu perdu l'habitude de lire dans mon âme? Dois-je aussi t'avouer que cet amour me rend malheureuse? Il est vrai que dans les premiers moments, cette émotion criminelle m'a paru bien vive. J'ai senti une nouvelle vie se réveiller dans mon âme. J'ai été entraînée, séduite par les prières, par les larmes, par le désespoir de ce jeune homme, par la facilité que nous laissait sa mère, que j'ai toujours regardée comme ma propre mère. Je l'ai aimée, oh mon Dieu, si jeune encore, avoir un passé si douloureux. Il me vient parfois dans l'esprit des pensées étranges. Il me semble qu'il ne m'aime plus, qu'il ne m'a jamais aimée, que l'ambition, l'intérêt et d'ignobles motifs l'ont poussé à feindre un sentiment qu'il n'a jamais ressenti. Oui, moi-même, j'éprouve une froideur dont je ne me rends pas compte. Sa présence me gêne, son regard me trouble, sa voix me fait trembler. Je le crains, je donnerais une année de ma jeunesse pour ne l'avoir jamais écouté. » Ces paroles semblèrent toucher la jeune confidente jusqu'au fond de l'âme. Son front se voila de tristesse, elle baissa les yeux et resta quelque temps sans répondre, en montrant plus de douleur que d'étonnement. Puis, soulevant doucement la tête, elle ajouta avec un visible embarras, « Oh, je n'aurais jamais osé porter un jugement si sévère sur l'homme que ma souveraine a levé au-dessus des autres en laissant tomber sur lui un regard de bienveillance. Mais si Robert de Cabanne avait mérité des reproches de légèreté et d'ingratitude, s'il s'était lâchement parjuré, il serait le dernier des misérables, car il aurait méprisé un bonheur que d'autres auraient demandé à Dieu tout le temps de leur vie pour le payer de leur éternité. Je sais, quelqu'un qui pleure jour et nuit, sans consolation et sans espoir, qui souffre et se consume d'une maladie lente et cruelle, et qu'un mot de pitié pourrait sauver encore, si ce mot sortait des lèvres de ma noble maîtresse. « Je ne veux plus rien entendre !» s'écria Jeanne en se levant brusquement. « Je ne veux pas attacher un autre remords à ma vie. Le malheur m'a frappé dans mon amour légitime et dans mon amour criminel. Hélas, je ne serai plus de conjurer ma terrible destinée. Je courberai le front sans murmurer. Je suis reine, je me dois au bonheur de mes sujets. » « Mais me défendrez-vous, madame, reprit Doña Cancha d'une voix douce et caressante, me défendrez-vous de prononcer en votre présence le nom de Bertrand d'Artois, de ce pauvre jeune homme qui a la beauté des anges et la timidité des jeunes filles? Et maintenant que vous êtes reine et que vous avez dans vos mains la vie et la mort de vos sujets, n'aurez-vous aucune clémence pour un malheureux ? Il n'a commis que la faute de vous adorer et de rassembler toutes les forces de son âme pour ne pas expirer de bonheur toutes les fois qu'il a pu rencontrer un de vos regards. Oh, j'ai pourtant bien fait des efforts sur moi-même pour le détourner de lui, s'écria la reine avec un élan de cœur qu'elle fut impuissante à maîtriser. Mais aussitôt, pour effacer les impressions que cet aveu aurait pu produire dans l'esprit de la suivante, elle ajouta d'un ton sévère. « Je te défends de prononcer son nom devant moi. Et si j'osais jamais laisser échapper quelques plaintes, je t'ordonne de lui dire de ma part que le jour où je pourrais soupçonner la cause de son chagrin, il sera exilé pour toujours de ma présence. » « Eh bien, madame, chassez-moi aussi de votre présence, car je n'aurai jamais la force de remplir un ordre aussi dur. Quant au malheureux qui ne peut éveiller dans votre cœur un sentiment de compassion, vous pouvez le frapper vous-même dans votre colère, car le voici qui vient écouter son arrêt et courir à vos pieds. » À ces mots, prononcés d'une voix plus forte pour les faire entendre au dehors, Bertrand d'Artois s'élança dans la chambre et tomba aux genoux de la reine. Depuis longtemps, la jeune camérière s'était aperçue que Robert de Cabannes avait par sa faute perdu l'amour de Jeanne, à qui la tyrannie de cet homme était devenue plus insupportable que celle de son mari. Donna Cancia ne tarda guère à remarquer que les yeux de sa maîtresse se reposaient avec une douce mélancolie sur Bertrand, beau jeune homme, triste et rêveur. Et quand elle se décida à parler pour lui, elle était persuadée que la reine l'aimait déjà. Néanmoins, une vive rougeur monta au front de Jeanne, et sa colère allait tomber indistinctement sur les deux coupables, lorsqu'un bruit de pas se fit entendre dans le salon contigu, et la voix de la grande sénéchale, causant avec son fils, frappa les trois jeunes gens comme un coup de foudre. La camérière chancela, pâle comme la mort. Bertrand se crut d'autant plus perdu que sa présence perdait la reine. Et Jeanne, seule, avec cet admirable sang-froid qui ne devait pas la quitter dans les moments les plus difficiles de sa vie, poussa le jeune homme contre le dossier sculpté de son lit et le cacha complètement sous les larges plis du rideau, puis elle fit signe à Donna Garcia d'aller au-devant de sa gouvernante et de son fils. Mais avant d'introduire dans la chambre de la reine ces deux personnages, que nos lecteurs ont pu voir à la suite de Jeanne près du chevet de Robert, il faut que nous racontions par quel prodigieux concours de circonstances et avec quelle incroyable rapidité la famille de la Catanaise s'était élevée de la dernière classe du peuple au premier rang de la cour. Lorsque Donna Violante d'Aragon, première femme de Robert d'Anjou, accoucha de Charles qui devait mourir duc de Calabre, on chercha une nourrice pour le nouveau-né parmi les plus belles femmes du peuple. Après en avoir passé plusieurs en revue, toutes également admirables de beauté, de jeunesse et de fraîcheur, le choix de la princesse s'arrêta sur une jeune Catanaise nommée Philippa, femme d'un pêcheur de Trépanie et blanchisseuse de son état. La jeune femme, tout en lavant son linge au bord d'une fontaine, avait fait des rêves étranges. Elle s'était imaginée d'être présentée à la cour, d'épouser un grand personnage, d'avoir les honneurs d'une grande dame. Aussi, quand elle fut appelée au château neuf, sa joie fut-elle extrême et son rêve parut commencer à se réaliser. Philippa fut donc installée à la cour et peu de mois après qu'elle avait commencé à nourrir l'enfant, elle resta veuve du pêcheur. Dans ce temps, Raymond de Cabannes, majordome de la maison du roi Charles II, ayant acheté un nègre à des corsaires, le fit baptiser en lui donnant son propre nom, l'affranchit, et voyant qu'il ne manquait ni d'adresse ni d'intelligence, le nomma chef de la cuisine du roi. Après quoi, s'en alla à la guerre. Pendant l'absence de son protecteur, le nègre resté à la cour fit si bien ses propres affaires qu'en peu de temps il acheta des terres, des maisons, des fermes, de la vaisselle d'argent et de chevaux de façon à pouvoir rivaliser avec les plus riches barons du royaume. Et comme il n'avait jamais cessé de gagner de plus en plus l'affection de la famille royale, il passa de la cuisine à la guide-robe du roi. D'un autre côté, la Catanaise avait si bien mérité l'amour de ses maîtres que pour la récompenser des soins donnés à son enfant, la princesse le maria au nègre et, pour cadeau de noces, on le fit chevalier. À dater de ce jour, Raymond de Cabannes et Philippa la blanchisseuse montèrent si rapidement que personne ne put balancer leur influence à la cour. Après la mort de Donna Violante, la Catanaise devint l'amie intime de Donna Sanchia, seconde femme de Robert, que nous avons présenté à nos lecteurs au commencement de cette histoire. Charles, son fils de lait, l'aimait comme une mère, et elle fut successivement la confidente de ces deux femmes, surtout de la seconde, Marie de Valois. Et comme l'ancienne blanchisseuse avait fini par apprendre les usages et les manières de la cour, lorsque Jeanne et sa sœur naquirent, elles furent nommées gouvernantes et maîtresses des jeunes filles, et par cette occasion, Raymond fut créé majordome. Enfin, Marie de Valois, à son lit de mort, lui recommanda les deux jeunes princesses en la priant de les regarder comme ses filles, et Philippa la Catanaise, honorée désormais comme la mère de l'héritière du trône de Naples, eut le pouvoir de faire nommer son mari grand sénéchal, un des sept plus grands chars du royaume, et ses trois fils chevaliers. Raymond de Cadane fut enterré comme un roi dans un tombeau de marbre dans l'église du Saint-Sacrement, et deux de ses fils allèrent bientôt le rejoindre. Le troisième, nommé Robert, jeune homme d'une forte et d'une beauté extraordinaire, ayant quitté l'habit ecclésiastique, fut à son tour nommé majordome, et les deux filles de son frère aîné furent mariées, l'une au comte de Terlizzi et l'autre au comte de Marconnay. Et les choses en étaient là, et la puissance de la grande sénéchale paraissait assurée à jamais, lorsqu'un événement inattendu vint tout à coup ébranler son crédit, et que le long édifice de sa fortune, élevé péniblement et pierre à pierre, avec tant de patience et tant de lenteur, miné dans sa base, faillit s'écrouler en un jour.